de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Le 20 septembre, à la mairie d'Entre-deux-Guiers, il y a eu une conférence à deux voix vraiment passionnante avec deux Pierre Baffert, l'un historien local et maire d'Entre-deux-Guiers et l'autre coprésident de l'association Christophoros. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister, écoutez bien, voici un résumé de ce que ces deux Pierre Baffert avaient à dire. Alors c'était au sujet de l'essor de l'industrie dans l'Entre-deux-Guiers, de la naissance en 1850 à son apogée en 1930. Alors bonjour, merci d'être venu. Lequel se présente en premier ? Celui qui est à ma gauche, donc, qui est qualifié d'historien, qui a aussi une casquette de maire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, si j'ai bien compris. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un petit peu dire qui vous êtes ?
Oui, natif et habitant d'Entre-deux-Guiers depuis 65 ans, comme ça donnera mon âge.
Ah oui.
Moi, j'étais professeur d'histoire-géographie. J'ai exercé dans différents lycées et plus récemment, dernièrement, au lycée Pont-de-Beauvoisin. Et donc, je suis à la retraite depuis quelques années.
Et vous vous ennuyez, c'est ça ?
Et j'ai pas le temps de m'ennuyer.
On plaisante parce qu'il a l'air particulièrement sur
bouquin. J'ai une retraite très active et en particulier un petit peu plus de temps maintenant pour se pencher sur l'histoire locale.
Voilà.
Que j'ai un petit peu fréquenté avec mon collègue et ami que vous recevez aujourd'hui avec moi, puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble sur l'histoire de nos communes dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années sur les 1000 ans de l'avant-pays savoyard. Et on a chacun fait quelques pages sur nos communes respectives, Entre-deux-Guiers dans mon cas et Saint-Christophe-sur-Guiers dans son cas, ce qui va donner quelques connaissances à vos auditeurs sur la personne en question qui va prendre la parole après moi.
Voilà, et qui se trouve à ma droite. Et grâce à lui, en partie, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul, le Christophoros est de plus en plus connu sur la région. On parlait de la bénédiction des voitures, là, qui a eu lieu sous la pluie récemment. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas bien suivi toutes les émissions de Radio Couleur Chartreuse, est-ce que vous pouvez dire un peu qui vous êtes ?
Alors, je m'appelle Pierre Baffert.
Oui.
Alors... Voilà, et je suis né à Saint-Christophe-sur-Guiers. Enfin, tout près, mais je suis là depuis ma naissance et depuis un peu plus longtemps que Pierre.
Bon.
Depuis un peu plus longtemps que l'autre Pierre.
Oui, celui qui est à ma gauche.
Je suis en fait coprésident de Christophoros. J'ai une coprésidente avec moi qui s'appelle Claire Madelon. Qu'il faudra que vous receviez un jour.
Ah oui, avec plaisir.
Absolument. Parce qu'il n'y a pas que la bénédiction des voitures à Saint-Christophe, il y a aussi la crèche provençale et puis
d'autres
événements.
Ah oui, j'avais reçu Monsieur Henri G.
Et ben voilà, puis vous allez le recevoir bientôt parce qu'elle s'annonce formidable, celle de cette année.
Oui.
Et donc c'est au titre de coprésident de Christophoros que lorsque les organisateurs de ce grand événement Trésor de Chartreuse qui se déroule à partir de samedi nous ont réunis et proposé de nous associer à la manifestation, moi j'ai eu l'idée pour Christophoros et avec Claire Madelon l'idée d'associer Pierre sur le thème de l'histoire.
Oui, l'histoire de l'industrie.
L'histoire du travail, de l'industrie en Chartreuse, puisque
voilà.
C'est le thème de l'événement Trésor de Chartreuse.
Alors, on va déjà se concentrer sur cette conférence à deux voix et à deux noms, on peut dire ça. Hein. Alors, deux voix pour deux Pierre Baffert, qui aura lieu le 20 septembre à 20h à Saint-Christophe-sur-Guiers, à la salle Le Peille, sur le sujet de l'essor de l'industrie dans l'Entre-deux-Guiers, de la naissance 1850 à l'apogée 1930. Donc, le sujet, en gros, c'est le travail et c'est votre idée.
C'est ça. Enfin, c'est surtout l'idée de Pierre,
Ils vont se renvoyer la balle.
De Saint-Christophe,
oui.
qui m'a interpellé sur l'événement Trésor de Chartreuse et m'a proposé effectivement d'essayer de faire une conférence à deux voix sur l'histoire de nos communes au regard des thèmes choisis par les Trésors de Chartreuse. Et comme on avait matière, vu déjà les recherches qu'on avait fait auparavant, pour pouvoir intervenir sur ce créneau et sur ce thème, on a décidé d'essayer de monter quelque chose ensemble, une sorte de diaporama avec photos et peut-être quelques vidéos qui permettra un petit peu de retracer ce tournant historiquement particulier qu'a été l'industrialisation de nos bourgs à une époque où notre vallée était en difficulté économique. Et où en une génération, une trentaine d'années, on a vu finalement se métamorphoser l'économie locale et la société par conséquent, par l'arrivée, on peut dire presque brutale, même si il y avait des éléments anciens qui pouvaient sur lesquels cette industrialisation s'est appuyée, mais cette industrialisation a été relativement rapide dans son apparition sur le territoire et a bouleversé l'économie et la société et la culture et voire même certains aspects de la vie politique locale sur notre territoire et sur notre vallée. Voilà. Donc c'est un tournant important et c'était l'occasion d'essayer de le montrer.
Et ben comme ça vous fait un entraînement là pour parler à deux voix, parce que moi je me suis un petit peu renseignée donc sur l'industrie et je disais à Pierre Baffert de Christophoros que en fait c'était très compliqué avec cette histoire du traité de Turin entre la France et la Savoie, toutes ces frontières qui bougent. Comment ça s'est passé alors pour l'industrie pour mettre ça en accord? Tout le monde s'est bien entendu finalement?
Vous parlez là du traité de Turin qui fixe la frontière?
Oui.
D'accord. Mais là, on est pratiquement à ce moment-là.
Après.
Oui, parce que le traité de Turin, c'était en 1760.
Ouais, on est juste avant, quoi. Ça commence avant, j'allais dire, la clarification, 4 siècles après le premier traité, qui était de Rouen, je crois, hein, Pierre. 4 siècles après, celui qui fixait de manière incertaine la frontière. Ce qui a créé la question de l'entre-deux-guerres, quoi. Et ce qui est une question passionnante à laquelle Pierre a répondu déjà beaucoup. Et là, c'est fixé. Mais nous, on part à peu près de cette époque, quoi.
D'accord. Donc, l'activité industrielle entre-deux-guerres, ça s'est développé comment?
Alors, elle s'est pas développée à partir de rien, déjà. Il faut savoir, et ça sera un peu le but de la conférence aussi, c'est de montrer qu'il y a eu quand même un certain nombre d'éléments de base qui ont permis justement l'éclosion de cette révolution industrielle locale, parce qu'il y avait déjà des pratiques. Il y avait une proto-industrialisation qui existait, dans laquelle les Chartreux ont joué un rôle d'ailleurs très important, puisque pratiquement les premiers sites proto-industriels qui existent sur le territoire ont été initiés par les Chartreux. Puis ensuite ont été sécularisés au moment de la Révolution française, lorsque les biens des Chartreux ont été vendus comme biens nationaux, ont permis donc l'éclosion de nouveaux entrepreneurs locaux qui ont repris ces sites. Et à un moment donné, ces sites ont été réanimés, il faut bien le dire, par de nouveaux entrepreneurs. La plupart, pas tous, mais beaucoup venant de l'extérieur,
oui.
Et venant ensuite, en fait, sur notre territoire, exploiter les ressources locales, essentiellement le bois et l'eau, pour développer, alors, cette fois, une vraie industrialisation, avec à la fois un côté artisanal, parce que beaucoup de ces ateliers étaient de taille artisanaux, et quelques usines, quand même, puisque certaines usines ont quand même dépassé les 200 salariés, à l'époque de leur apogée, et donc on était sur ce que j'ai appelé un district industriel, enfin à la fois artisanal et à la fois industriel, voilà. Dont la dominante était le bois. Alors qu'il y avait en face, à Saint-Laurent-du-Pont, au même moment, l'apparition d'un district industriel aussi, mais plutôt lui orienté sur le fer. Et les deux, en fait, sont issus de cette proto-histoire, mais une proto-histoire qui a été en quelque sorte réveillée par ces nouveaux entrepreneurs arrivés à peu près dans les années 1850-70 et qui, en 30 ans, ont vraiment complètement bouleversé, par essaimage aussi, dans des ateliers locaux, complètement bouleversé l'industrialisation locale.
Alors là, je me tourne vers le Pierre Baffert qui est à ma droite. Est-ce que vous pensez que ça a apporté une amélioration dans la vie des gens, cet essor industriel ?
Ah, c'est certain, oui. Ça a changé quand même, comme le disait Pierre, toute l'économie de la région. Et moi, je vais justement flasher un petit peu là-dessus à l'occasion de la conférence pour montrer, par exemple, l'influence des Chartreux sur deux sites, même trois, proto-industriel de ma commune à La Ruchère. La Ruchère qui a une relation tout à fait particulière avec les Chartreux.
Ah oui ?
Ah oui, parce que les Chartreux, quand ils sont arrivés, ont trouvé des Ruchérois pour les servir et pour leur fabriquer le pain. Et deux familles, notamment, ont été citées, les Savignon, les Mollard, et ils cuisaient le pain à La Ruchère et allaient le porter au monastère au départ. Oh. Après, les tendances se sont inversées. Ah bah bien sûr, toujours oui. Par le col de La Ruchère. Mm. Et après, les tendances se sont inversées. Ce sont les Chartreux qui ont régulièrement livré plusieurs dizaines de kilos de pain par semaine à La Ruchère et des bons de farine distribués par le curé à l'époque.
Et pourquoi ça s'est inversé comme ça ?
Parce que La Ruchère, c'est un pays pauvre.
Ah.
C'est un pays très pauvre.
D'accord.
Et on peut dire que à partir des sites proto-industriels que les Chartreux ont organisés à La Ruchère, ça a amené un peu de confort à La Ruchère.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi la création d'une ligne ferroviaire du VSB. Qu'est-ce que c'est ?
Alors le VSB, c'est le Voiron Saint-Béron.
Ah d'accord.
Voilà. C'est une ligne à voie étroite, comme on disait, c'est-à-dire que entre les rails, il n'y avait pas plus d'un mètre. On était vraiment sur un chemin de fer très très étroit, qui a été construit, comme dans bien d'autres régions d'ailleurs, dans les années 1890, exactement sur Entre-Deux-Guillets, il arrive en 1895, et il va fonctionner jusqu'en 1938, et qui vient combler les interstices, si vous voulez, entre les lignes plus importantes, la ligne Grenoble-Voiron, et puis la ligne Lyon-Chambéry. Et entre ces deux lignes majeures, de portée régionale, voire nationale, va s'inscrire une sorte de barreau local, et ce barreau local, ça va être le Voiron-Saint-Véron, construit assez rapidement, en 3-4 ans, surtout dans les années 90. Il y a eu une très longue préparation, les industriels le réclamaient depuis très longtemps, ça a duré au moins une trentaine d'années, jusqu'à la réalisation qui, elle, va être relativement rapide, en quelques années, dans les années 1890.
Et pourquoi cette ligne a été interrompue ?
Bah tout simplement parce que il faut quand même savoir que c'était pas une ligne qui était hyper performante au vu des règles d'aujourd'hui. c'était un train donc d'abord à voie étroite, donc dont la capacité d'emport était pas considérable, qui était à la fois voyageurs et marchandises, ce qui limitait évidemment la quantité des marchandises transportées. Et puis il y avait quand même une force de traction qui était relativement limitée, donc c'est un train qui avançait pas très très vite, et même dans certaines pentes, c'est un train qu'il fallait pousser. Car il faut quand même savoir que dans ce qu'on appelle la tranchée, qui est maintenant l'avenue de Chartreuse à Entre-Deux-Guillets, cette tranchée qui avait donc été ouverte pour le VSB, justement, d'où son nom, pour permettre le franchissement d'une petite pente, la pente du Moncelet sur Entre-Deux-Guillets, eh bien, en hiver, lorsqu'il y avait de la neige sur les rails et que ça dérapait un peu, il fallait que les gens descendent, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de... Enfin, un allègement suffisamment du poids pour que le train puisse continuer à avancer. Donc, on n'était quand même pas sur un produit hyper performant.
Ah, ça, c'est sûr.
Voilà.
on raconte aussi plaisamment, ça, c'est que quand c'était dans les gorges de Chaille, on avait le temps de descendre du train pour satisfaire un besoin pressant et y remonter tranquillement.
Ah oui.
Sans s'épuiser et sans s'essouffler outre mesure.
Une autre ambiance que le TGV Paris-Genève.
Ça n'avait rien à voir du tout. Ça n'avait rien à voir du tout. Et Et puis donc, il y a eu quand même aussi, à partir des années 30, la concurrence de l'automobile et des cars qui, notamment pour les voyageurs, étaient beaucoup plus performants que le train. Et puis des camions qui ont très rapidement pris le dessus aussi sur le transport ferroviaire pour des questions tout simplement de rapidité et puis de commodité.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Donc, il y a eu, par exemple, deux écluses, des moulins. Ça a été important, ça ?
Il y avait beaucoup de moulins.
Beaucoup de moulins.
Il y avait beaucoup de moulins. Tous les sites, sur tous les sites des Chartreux dont on a parlé, il y avait pratiquement des moulins installés, qui étaient liés à des seuils installés sur les rivières. Et des moulins découlaient un certain nombre d'autres activités. La plupart du temps, avec des moulins, il y avait des scies. qui était la plupart. Il y avait des Martinets, c'est comme ça que sont nés le site de Fourvoirie, justement, le site industriel de Fourvoirie.
Qu'est-ce que c'est un Martinet?
Un Martinet, c'est un système, en fait, à clapet, qui est alimenté par la force du cours d'eau et qui permet de marteler le fer et de transformer en fait ce fer en fer plus, comment dire, industriel, c'est-à-dire utilisable par l'activité économique. Et ces martinets étaient installés justement à Fourvoirie, c'est l'origine d'ailleurs de l'activité sidérurgique sur le territoire, à l'initiative des Chartreux. Et puis il y avait aussi des activités liées toujours sur ces sites particuliers, là où il y avait des chutes d'eau en quelque sorte, hein. Il y avait aussi des activités agricoles, c'est là qu'on, par exemple, qu'on préparait le chanvre, puisque le chanvre, avant d'être utilisé et tissé, avait besoin d'être traité. Et en particulier, pour en détacher les fibres, on le laissait tremper un certain temps dans l'eau. Et c'est souvent dans ces lieux-là qu'on y associait ces activités agricoles, enfin, en marge de l'agriculture, et qui permettaient d'ailleurs de réaliser une proto-industrie qui donnait du travail aux agriculteurs qui, en hiver, avaient du temps libre. Et c'est comme ça qu'en fait, l'industrie est aussi arrivée dans le territoire. Elle est arrivée très souvent à l'initiative d'entrepreneurs extérieurs. Je pense aux Gantiers de Grenoble, je pense aux Soyeux de Lyon. Elle est arrivée de l'extérieur pour utiliser une main-d'œuvre rurale qui avait du temps, qui était disponible une partie de l'année, et sur des sites où il y avait de l'énergie qui permettait justement de créer ce type d'activité complémentaire à l'agriculture. Et c'est de là qu'est née la proto-industrie sur laquelle s'est bâtie la vraie industrialisation dont on va parler dans la conférence, qui elle est postérieure, qui date des années 1850-60-1890.
Au 19e siècle, à Saint-Christophe, par exemple, sur un kilomètre de cours d'eau, de Guévif, il y a trois barrages.
Ah oui.
Le barrage de l'Échaillon, tout de suite après le barrage dit du Moulin, qui alimente le moulin, mais le barrage de l'Échaillon alimente aussi un moulin, et le barrage de la Tournerie, qui sera construit vers les années 1855-58. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul de ces trois seuils, c'est le barrage du Moulin, qui existe toujours.
Ah oui, je comprends pourquoi les ressources locales ont dit que c'est l'eau et le bois, parce que sinon il y avait des fabriques de cannes aussi, Tournerie, Gainerie, Scierie. C'était quoi qui tournait le mieux ?
Oh, les moulins, c'est pas extraordinaire ce qui se passe en Chartreux. C'est j'allais dire, c'est courant, c'est comme ça à peu près partout en France, hein. Dès qu'il y a un petit peu une possibilité de chute et de force hydraulique, il y a le moulin, et on a connu pratiquement autant de moulins à une période. Mon père était meunier, c'est pour ça que je connais un peu le problème.
Ah oui.
Autant de moulins qu'il y avait de communes, et même un peu plus. Il y avait souvent plusieurs moulins par commune. Aujourd'hui, il en reste 3 ou 4 par département. Donc ça, c'est l'évolution. Je crois que ce qui a le plus prospéré chez nous, c'est la transformation du bois, ça c'est clair. Et l'énergie tout court qui a permis d'allumer les villages et les chaumières.
C'est depuis quand ça, l'électricité ?
Alors ça, il faut laisser la parole à mon compère de Saint-Christophe, parce que en gros, on peut dire que le principal site hydroélectrique sur le territoire, c'était quand même à Saint-Christophe-sur-Guiers.
Oui, Saint-Christophe, absolument.
En quelle année, du coup, les gens ont pu
vraiment
avoir...
Vraiment au passage du 19e au 20e siècle, ouais. 1899-1900. Mais on va essayer de répondre à cette question dans une de mes interventions. C'est, est-ce que Saint-Christophe a bien été le premier village du coin qui a donné l'électricité dans les chaumières? Voilà. Et la réponse, en tout cas... On va essayer de clarifier la chose et d'apporter peut-être une réponse, au moins partielle.
D'accord.
Parce que une petite précision, justement, cette hydroélectricité est née encore de ces fameux seuils, où il y avait ces fameux moulins. et où il suffisait d'installer une turbine pour produire du courant. Et donc, tous ces sites ont été utilisés à cette fin. Dans un premier temps, dans une certaine pagaille, chaque moulin installait sa turbine et fournissait du courant qui, attention, à l'époque, était essentiellement public, c'est-à-dire que c'était surtout pour alimenter quelques lampadaires d'éclairage public. C'est par la suite, et en particulier lorsqu'ont été installés les grosses turbines sur le site, les sites importants, et notamment sur le site de Saint-Christophe, qu'on a pu commencer à avoir des abonnements particuliers, c'est-à-dire que l'électricité est arrivée dans les chaumières, et ça c'est pas avant la Première Guerre mondiale, on est juste avant la Première Guerre mondiale, où on commence à électrifier certaines maisons, et pas forcément les plus pauvres évidemment, puisqu'il fallait payer un abonnement pour recevoir l'électricité.
Et en ce qui concerne les tourneries, alors qu'est-ce que c'est une tournerie?
Alors ça, c'est peut-être à Pierre Baffert de Saint-Christophe qui pose la question, parce que c'est un de ses ancêtres qui pourrait être à l'origine, là aussi c'est une question historique, oui, de la tournerie locale.
C'est une question aussi à laquelle on va essayer de répondre. Est-ce que la tournerie a été inventée, entre guillemets inventée, à Saint-Christophe en 1858? On va essayer de poser cette question. Voilà. Ça a été affirmé en tout cas par un historien local qui était réputé rigoureux et universitaire, qui s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, Joseph Molin. Et il a écrit ça il y a déjà très longtemps, en disant la tournerie a été inventée à Saint-Christophe par un monsieur Baffert en 1858. Parce que ce monsieur Baffert, qui n'est pas Pierre, il avait dit Pierre, mais je pense que c'est un Joseph Baffert-Joubert, qui est le demi-frère de Pierre, qui a fondé effectivement cette tournerie en 1858 à Saint-Christophe, et c'est la tournerie qui a fourni et livré au monastère les premiers étuis qui conditionnaient l'élixir de la Grande Chartreuse.
Oula.
Voilà. Toujours les Chartreux, oui, toujours les Chartreux.
1858. En 1862, il les a livrés à Fourvoirie, puis en 1935, à Voiron. Et donc, il y a une relation client-fournisseur, là, qui dure 120 ans. 1858-1978.
Il y avait aussi une fabrique de cuir à rasoir?
Oui, alors, certains pensent que, dont je suis, que ça pourrait être aussi la source du deuxième site historique de naissance de la tournerie, lorsque un certain Hippolyte Solier, qui était parfumeur lyonnais, oui, toujours des extérieurs quand même, hein, des halogènes, comme on dit, qui viennent sur notre territoire, s'est installé à Aigues-Noires, près d'un site des Chartreux d'ailleurs, toujours, pour installer une fabrique de cuir à rasoir. Il avait inventé un système particulier de cuir à rasoir suspendu sur du bois. Et il a fabriqué donc ce cuir à rasoir à Aigues-Noires, et il s'est petit à petit tourné ensuite vers la tournerie, et son exploitation, son entreprise a été rachetée ensuite par les frères Mollard, et c'est devenu bon la tournerie que beaucoup d'entre nous ont connue, la tournerie d'Aigues-Noires, Mollard, qui a connu un destin fabuleux, puisque elle a compté plusieurs dizaines d'ouvriers à certains moments de son histoire dans les années 30.
Oui,
c'était la grande tournerie locale.
Il paraît que notre région avait le monopole du marché français autour de la gainerie. Est-ce que c'est vrai, ça? À un moment,
dans les années 30, on était un des pôles majeurs, avec de très grosses usines d'ailleurs, que ce soit l'usine Siegel, Stockmal Siegel à Les Échelles, que ce soit l'usine Ray à Entre-deux-Guiers, c'était des entreprises qui dépassaient les 200 salariés ou qui approchaient les 200 salariés.
Bien sûr.
Et qui fournissaient toutes les grandes maisons parisiennes en ce qu'on appelle les écrins, dans lesquels on mettait donc... ça pouvait être tous les produits de luxe, on mettait aussi les couverts, etc. C'était l'emballage prestigieux de l'époque pour les produits de luxe de la capitale, avec lequel on était en rapport, et les ventes étaient s'effectuaient ensuite à l'échelle mondiale.
Oui, exclusivement, je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a toujours eu aussi à Thiers un district un peu de production d'écrins, à Thiers.
Et on a déjà parlé des scieries, il y avait aussi des ateliers d'ébénisterie, menuiserie et puis une papeterie. Alors, comment s'est passée cette papeterie ?
Eh bien, toujours à l'origine des Chartreux, bien sûr.
Oui,
c'est sur le site des Chartreux que s'est installée la papeterie dans les années 1860, à partir, là encore, d'un industriel étranger, entre guillemets étranger, extérieur en tout cas, il venait de Voiron, M. Gondron, qui a créé cette papeterie. Il l'a créée essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que le site avait la caractéristique de présenter une eau extrêmement pure dont il avait besoin dans son process de production. Et il savait compter sur une main-d'œuvre rurale suffisamment abondante pour pouvoir être recruté dans son entreprise. Voilà, c'est les deux raisons principales de sa venue sur le site ex des Chartreux, qui entre-temps évidemment était passé en d'autres mains, mais avait périclité. Et il va lui donner une deuxième jeunesse, en quelque sorte, en y installant cette papeterie, vous savez, à l'époque, on fabriquait les papiers à partir du chiffon, va très vite, par contre, chez nous, s'orienter vers l'utilisation du bois, la fibre de bois, comme matière première, et notamment le bois de Chartreuse, avant de se tourner vers des bois étrangers, parce qu'évidemment, beaucoup moins cher, notamment les bois scandinaves. Voilà, donc ça date de 1860, et puis il y aura beaucoup de repreneurs successifs pour une papeterie qui va compter jusqu'à 200-250 ouvriers dans les années 50, avec des bâtiments de plus en plus imposants et de plus en plus importants, et malheureusement disparaître au début du 21e siècle, comme beaucoup de nos entreprises, après la crise des années 80, on a eu un choc brutal sur nos districts industriels qui a en partie malheureusement disparu. Et aujourd'hui, on essaye de vivre un peu de ce patrimoine, en tout cas de le pérenniser, parce que l'économie touristique est en train de naître sur notre territoire. C'est un atout important que de pouvoir s'appuyer sur ces traces du passé.
Et j'ai appris plein de choses. Du coup, la fabrication d'outils en fer, c'est la taillanderie. Mm-hmm. Ça a été important aussi, du coup.
Alors, qui parle ?
Je
pense que mon collègue vous parlera un peu de l'atelier Jet, quand même, parce que... L'atelier Jet, ça a été quand même, dans l'histoire de la tournerie locale, quelque chose d'important. La taillanderie aussi est née à l'origine de l'agriculture. Parce que les premières entreprises de taillanderie avaient pour objectif de fabriquer des outils agricoles. Mmh. Et ils étaient, là encore, installés sur des sites, hydrauliques. Donc il y en avait par exemple une célèbre à Aigues-Noires, une taillanderie à Aigues-Noires, la taillanderie Couturieux, qui produisait essentiellement des outils agricoles. Mais par contre, la taillanderie d'Henri Jet, qui est devenue un atelier de mécanique, c'était plus de la taillanderie, c'était un vrai atelier de mécanique, et l'atelier qui, sur le bourg d'Entre-Luguiers, a produit les fameux tours qui étaient utilisés dans les fameuses tourneries, et qui était un tour bien particulier. C'est-à-dire un tour semi-industriel qu'on pouvait débrayer, qui était donc utilisable à la main et qui permettait de fabriquer des pièces, on peut dire uniques, mi-industrielles, mi-artisanales, mi-machines, mi-main.
Voilà. Mais c'était pas le même Henri Jet que celui qui fait la crèche, non ?
C'est son grand-père.
Voilà. Oh.
Et c'était le mien. C'était le mien aussi.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui, oui.
Ah, mais vous êtes de la même famille que Henri Jet, celui qui fait les crèches ?
Absolument. Nous sommes cousins germains, oui, oui.
Oh.
On vous l'a dit ça quand on est venu parler de la crèche, non ?
Ah, oh,
oui, il me semble qu'on vous l'a dit.
Souvenir.
Moi, je pense que les auditeurs s'en souviennent.
D'accord, mais j'espère.
Mon grand-père, par contre, lui, c'était quand même quelqu'un d'ingénieux. Il a déposé plusieurs brevets à l'époque, hein. Et notamment les tours Jet. Aujourd'hui, les tours Jet, une association comme la Passion du Bois a cherché à récupérer les tours Jet, et je pense que les ateliers de formation de Passion Bois travaillent sur des tours Jet.
Tout à fait.
Les tours Jet. Et puis, comme ça, anecdotiquement, il avait servi la sylviculture parce qu'il avait trouvé un moyen de transformer des véhicules Citroën, B14, la B14 notamment, c'était une voiture d'avant-guerre, de les transformer en tracteurs pour le débardage des bois.
Et il avait, c'était quelqu'un de très ingénieux.
Il a transformé beaucoup de véhicules comme ça au bénéfice de la sylviculture.
Et j'ai vu qu'il y a eu aussi une fabrique de limonade.
Oui. Alors, on va peut-être pas en parler dans notre conférence parce que c'est pas directement lié au bois. Mais effectivement, il y a eu une fabrique de limonade, la fabrique Brunier sur Entre-deux-Guiers, qui remonte de mémoire aux années 1890. D'ailleurs, si vous allez sur la façade de la fabrique, qui est toujours actuellement en place en face de la bibliothèque à Entre-deux-Guiers, vous trouvez la date, je crois que c'est 1892 de mémoire, de la fondation de cette fabrique de limonade, qui a fonctionné très longtemps.
Oui.
Et bon, maintenant, c'est interrompu, peut-être parce que la limonade est peut-être moins...
consommée. Oui, il y a d'autres choses,
passé.
Les sodas et tout.
Elle revient, la limonade.
Elle revient un petit peu,
mais la maison Brunier a disparu. Ouais. Elle était peut-être là pour l'eau aussi, hein, la qualité de l'eau.
C'est vrai que c'est une production singulière.
Ouais.
L'apogée de l'industrie, ça a été en 1930, après ça a été le déclin du coup, je suppose.
L'apogée, c'est un plateau. En gros, c'est les années 30-50. Voilà. On est sur une période d'apogée jusqu'à la fin des années 50. Ensuite, vous avez une sorte de transition dans les années 60, début 70. On est sur un palier et l'industrie se maintient. Et ensuite, survient la crise des années 70. Et là, il va y avoir une dégringolade extrêmement rapide qui va même s'accélérer entre les années 80 et 90, où la plupart des ateliers nés à l'époque du district vont peu à peu disparaître, puisque j'avais compté jusqu'à 30-35 sites industriels sur la commune, seule commune d'Entre-deux-Guiers, dans les années 50. Et de tous ces sites-là, si on réfléchit bien, il n'en resterait qu'un, le site Vivian.
Bon, je crois que tout est prévu, du coup, pour célébrer les trésors de Chartreuse. C'est un événement qui vous a parlé tout de suite, quand vous en avez eu connaissance ?
Alors moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Nous qui sommes un petit peu, Pierre et moi, versés sur le patrimoine, ça nous a paru très important qu'on essaye de construire une identité sur un territoire comme la Chartreuse à partir de ce patrimoine, et même qu'on essaye d'envisager, dans le cadre d'une économie touristique en devenir, qu'on essaye d'imaginer un avenir à partir de ce passé.
Voilà.
Et donc ça participe, et si bien que ce soit la communauté de communes qui a quand même la compétence économique sur notre territoire, ça participe justement de la définition d'une dynamique économique qui est pas oublieuse du passé, mais qui au contraire plonge ses racines dans le passé pour construire un futur, parce qu'on ne crée pas de futur quand on oublie le passé.
Eh ben, c'est une très belle conclusion. Et vous, Pierre Baffert de Christophoros, vous avez quelque chose à rajouter ?
Entendu et approuvé.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot.
Voilà, Radio Couleur Chartreuse espère que vous avez appris plein de choses au sujet de l'essor de l'industrie dans la vallée d'Entre-deux-Guiers, les Échelles. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bouillon de Chartreuse.
Bosse 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là, le travail c'est la santé. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. gagner tout le confort.